des sujets qui vous interpellent. Voici Jean-Luc Mongrain.
Alors, je vous les avais avisés dès le début de notre émission aujourd'hui. Nous serons évidemment en diffusion de cette conférence de presse qui est prévue du côté de la santé publique à Montréal. Alors, des interventions, évidemment, de M. Arruda, qui sera présent comme directeur national de la santé publique. Mme Sonia Bélanger, également, qui est directrice générale du CIUS du Centre-Sud. Et la docteure Mylène Drouin, qui, évidemment, est la responsable de la santé publique pour la grande région de Montréal. Alors, Sabrina, ça va être un genre de bilan, je pense, qui va être mis en place pour ce qui est de la région de Montréal, parce que le Québec, on le sait, n'est pas la même réalité à la grandeur.
Voilà, bilan montréalais. On sait au cours des dernières semaines, le docteur Horacio Arruda qui a fait une tournée des régions. On l'a vu notamment en Outaouais, à Gatineau, à Sherbrooke. Il était allé également dans le nord du Québec. Alors, ça allait de soi quand même que le docteur Horacio Arruda vienne faire également le point pour ce qui est de la grande région, de la région de Montréal. Et là, vous l'avez dit, le point de presse qui devrait commencer avec une première allocution de la présidente directrice générale du CIUS du Centre-Sud de l'île de Montréal, qui est Mme Sonia Bélanger. Ensuite, on devrait entendre le directeur national de la santé publique du Québec, le docteur Horacio Arruda, et viendra par la suite la directrice régionale de santé publique de Montréal, la docteur Mylène Drouin. Alors bon, on va faire le bilan ici de la grande région de Montréal. Chose certaine, c'est que pour l'instant, bon, vous savez, on est rendu à un petit peu plus de 60 200 cas de la COVID-19 à travers le Québec, et simplement pour la ville de Montréal, on est à 29 133 cas. Alors la grande majorité, ça se passe dans la métropole.
C'est Montréal, et c'est peut-être pour ça qu'il est important de faire ce bilan de la situation montréalaise pour que tous comprennent que d'un bout à l'autre de la province, la situation n'est pas la même. On a le bilan du jour au Québec ici, et nous sommes le 6 août. Alors, il y a 19 hospitalisations aux soins intensifs, il y a 152 hospitalisations en baisse de 13, et il n'y a pas de nouveaux décès de signalés, mais il y a quand même des nouveaux cas de confirmés au nombre de 108.
Oui, voilà exactement. Mais fait à noter quand même, c'est la deuxième journée consécutive où il n'y a pas de nouveaux décès de la COVID-19. Exact. Alors, c'est quand même une donnée qui est encourageante. Effectivement, vous l'avez dit, 108 nouveaux cas au cours des 24 dernières heures pour ce qui est de la COVID-19. Alors bon, pour ce qui est du nombre total, ça je l'ai dit, c'est plus de 60 200 cas. Et pour ce qui est du nombre total de décès, on est à 5 687. Et juste pour la région de Montréal, c'est-à-dire à Montréal, on est à 3 447 décès. Alors, quand on fait
bien
le ratio, même chose.
On voit bien la majorité, 3 sur 5.
Là. Exactement. Même chose au niveau des cas et du nombre de décès, la grande majorité, c'est-à-dire, ça se passe du côté de Montréal. Si on regarde également au niveau des prélèvements, les dernières données qu'on obtient, ce sont les données du 5 août. Donc, on est le 7 aujourd'hui, donc ça fait quelques jours. Mais il y a eu une augmentation de 16 367 prélèvements qui ont été réalisés pour un total de plus de 1,3 million de prélèvements. Donc, en fait, des prélèvements, ce sont des tests, en fait, de la COVID-19 qui ont été réalisés. Donc, plus de 1,3 million de tests qui ont été réalisés au cours des derniers
mois. Ce que j'ai bien hâte de voir aussi, c'est un exercice, évidemment, de communication également, et en même temps et du même coup. Et on sait qu'il y a eu des tensions entre la vision montréalaise de la directrice, Mme Drouin, Dr Drouin, et des politiques de la santé nationale présidées par M. Arruda. Donc, il y a eu, à un moment donné, un genre de clivage entre les deux positions, puis on se lançait un peu la balle. Je pense que tout le monde a été bon prince et a bien joué dans cette affaire-là pour ne pas, évidemment, faire augmenter la tension, parce que déjà, tout le monde combattait, mais de façon pas différente, mais à des niveaux différents pour ce qui est de la pression sur les organisations.
Effectivement, notamment,
on s'en
avait
va au point de presse directement.
Je me présente, je suis Sonia Bélanger, je suis la présidente directrice générale du CIUS du Centre-Sud de l'île de Montréal. Et c'est un réel plaisir aujourd'hui d'accueillir Dr Horacio Arruda pour faire le bilan de la première vague à la pandémie COVID-19 dans la grande région de Montréal. Nous avons eu le privilège un peu plus tôt aujourd'hui d'avoir une séance de travail avec Dr Drouin, la directrice de la santé publique, avec Dr Horacio, ainsi que les 10 PDG de la région de Montréal. Alors, pour nous, ce fut une occasion d'amélioration de nos façons de faire, de dresser les principaux constats, les pistes d'amélioration. Les PDG de Montréal vont travailler ensemble. On se prépare actuellement. Nous avons fait le bilan, d'ailleurs, ensemble. Et pour nous, c'est extrêmement important de travailler en étroite collaboration avec la Direction régionale de santé publique. Alors, l'événement d'aujourd'hui est d'autant plus symbolique puisqu'il rassemble à Montréal l'expertise et l'expérience de toutes les organisations de santé et de services sociaux qu'on retrouve à Montréal. On sait qu'à Montréal, c'est une grande métropole santé avec 5 CIUS, mais aussi 5 centres hospitaliers universitaires d'envergure. Le défi est complexe. Les équipes de la Direction régionale de la santé publique et les PDG font front commun avec leurs partenaires pour préparer et être prêts à donner les réponses appropriées si la pandémie se forme en une deuxième vague ou en plusieurs foyers d'infection localisés. L'expérience vécue jusqu'aujourd'hui a été une expérience que nous avons vécue chacun au sein de nos établissements. Alors, il faut ajouter à cette expérience un travail collectif pour l'ensemble des Montréalais et surtout pour l'ensemble des patients, des résidents que nous desservons dans chacun de nos établissements. Je vous remercie. Je laisse maintenant la parole à Dr. Horacio Arruda.
Bonjour à tous, Mme Bélanger, Dr. Drouin. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui ici à Montréal. C'est une région qui a été au cœur, je vous dirais, de la crise ou en tout cas de l'épidémie importante qu'on a vécue au Québec. Ici, comme ailleurs dans le monde, les régions urbaines ont été relativement touchées de façon intensive, compte tenu de leur mode d'organisation, c'est-à-dire leur caractéristiques urbaines, beaucoup de population, densité de population de différentes cultures à travers le monde. On est actuellement à un point crucial dans la lutte contre le COVID-19. On a traversé cet hiver la chose, mais on a une certaine accalmie, mais il ne faudrait pas penser que la situation est complètement disparue. On est probablement à l'aube d'une deuxième vague qui pourrait arriver dès cet automne. Donc, dans les faits, c'est important de faire le bilan de ce qui s'est passé, d'aller chercher les éléments où on pense qu'on pourrait apporter des améliorations, mais bien entendu se préparer à ce que pourrait devenir une deuxième vague. Donc, je voudrais vraiment insister sur le fait, c'était l'été, on a eu l'impression que les choses diminuent. Il y a une diminution de nombre de cas par rapport à ce qu'on a vécu au printemps, mais les équipes de santé publique actuellement enquêtent encore plusieurs cas par jour. Des cas qui sont parfois plus compliqués à enquêter parce que, vu qu'on a déconfiné, les gens ont eu beaucoup plus de contacts comme tels, mais on arrive, à travers les interventions rapides de la santé publique, à ce que j'appellerais gérer ces cas et ces éclosions-là. Mais c'est important, je tiens à le mentionner, particulièrement aux gens qui ont pu être contactés par la santé publique, de collaborer et d'appliquer leurs recommandations pour éviter qu'on recommence. Je voulais aussi mentionner, là, c'est sûr que dans ma tournée, je voulais faire un aller pour aller rencontrer des gens qui ont travaillé très fort durant au cours des derniers mois, pour échanger avec eux, entendre ce qu'ils ont à dire, mais aussi exprimer ma grande reconnaissance envers les acteurs, les équipes de santé publique et leurs partenaires, bien entendu. Mais vous savez, Dr. Mylène Drouin va pouvoir vous en parler tantôt, il y a eu énormément de travail qui a été fait autour de cas et de contacts dans la communauté qui ne se sont pas avérés en grandes épidémies dans la communauté. Certes, on a vécu un drame très, très important dans les CHSLD, mais par contre, dans la communauté, on a évité beaucoup de cas et malheureusement, pas heureusement, mais on ne peut pas les quantifier nécessairement le nombre de cas qui ont été sauvés, mais quand on se compare avec d'autres pays, on a vu que le système de soins a été vraiment impliqué par la transmission communautaire avec des choix difficiles à prendre aux soins intensifs. Donc, j'ai eu l'occasion de faire le point, comme disait Mme Bélanger, avec les équipes de santé publique ici, avec aussi les PDG, les présidents-directeurs généraux, qui couvrent le territoire de Montréal. Et on a discuté justement des effets que ça peut entraîner, mais aussi de voir quels sont les défis qui sont devant nous, devant une perspective de deuxième vague. C'est clair que certains milieux, je l'ai dit, ont été très touchés, certaines régions plus que d'autres. On s'attendait d'ailleurs à ce que la région métropolitaine, compte tenu de son ces contacts aussi internationaux, la multiplicité des gens qui proviennent de différents pays. La semaine de relâche a eu un impact très, très important. La quantité de personnes qu'il y a ici, la proximité, c'est normal qu'une ville comme Montréal ait plus de cas qu'en périphérie du Québec. Elle a dû composer avec différents défis, bien entendu. On a vu pendant le déconfinement graduel qu'on a fait, il a fallu attendre un peu dans la région métropolitaine pour le déconfinement. Souvent, il y avait un décalage d'une semaine à deux semaines, justement parce que la situation était plus intense ici. Mais on a fini quand même par la suite à mieux contrôler la transmission puis à pouvoir, à mon avis, déconfiner aussi, tout en surveillant de très près les différentes activités. Les établissements des régions et les équipes de santé publique devront encore continuer à travailler très fort et de concert pour continuer d'assurer l'accès au dépistage. C'est important maintenant, mais ça va être aussi très important quand la circulation va se faire, vraiment aller dépister les bonnes clientèles et poursuivre le travail d'enquête et de traçage qui est fait actuellement afin d'isoler les personnes et limiter au maximum la transmission dans le virus. Cet élément-là est très, très important. Vous savez, il est fort peu probable qu'on en arrive à vouloir complètement déconfiner, reconfiner, et pas déconfiner, comme avant, parce qu'il y a des effets pervers. Hein. On a sauvé beaucoup de vies, mais quand on confine des gens, notamment les jeunes, ont des conséquences au confinement. Ils ont besoin d'aller à l'école, ils ont besoin de socialiser. Les personnes âgées peuvent avoir des pertes cognitives importantes, des pertes physiques, etc. Et donc, plus on va travailler ensemble, la population, la santé publique, les établissements, à appliquer les consignes, plus collectivement, on ne surchargera pas notre système de soins, puis on n'aura pas besoin de perdre des choses qu'on a acquises. Je l'ai dit, quand on est déconfiné, on est comme en liberté conditionnelle, mais il faut respecter les conditions. Et chacun des gestes que chacun des Québécois pose et pose peut avoir un impact comme tel, on l'a vu. Ce n'est pas nécessairement seulement associé à des contextes de bars ou d'autres éléments, mais c'est aussi associé à des contextes de vie personnelle, de parties qu'on peut faire, etc. Des fois, on a l'impression qu'entre nous, c'est plus facile, il y a moins de risques, mais c'est pas vrai. Ce virus-là est un malicieux. Il peut se cacher chez vous sans que vous soyez, vous vous rendez compte. Donc, j'insiste là-dessus parce que j'aimerais vraiment qu'en cette période un peu de baisse, notre situation ne soit pas de dire ça diminue et donc il n'y a plus de problème, mais c'est plutôt de dire qu'il est comme là, mais encore plus insidieux, et ça va être très important de respecter les consignes. Je voudrais vraiment là, souligner l'excellent travail qui a été fait, notamment dans la région, par rapport aux premières cliniques de dépistage en mars, des cliniques novatrices de grande quantité, au dépistage massif sans rendez-vous qui a été mis en place à la ville aux places des festivals. Puis je salue aussi la collaboration fructueuse avec la Ville de Montréal en ce qui concerne les mesures de respect de la quarantaine mises en place à l'aéroport de Montréal. Il y a eu aussi, dans un contexte où il y a de l'itinérance ici, des clientèles très vulnérables, un travail qui a été fait très actif, en proactif, entre la santé publique, la Ville de Montréal et les organismes communautaires pour permettre que ces clientèles-là soient gérées adéquatement et qu'on ne se retrouve pas non plus avec des mortalités importantes. Il y a eu l'ouverture de cliniques mobiles en mai dernier et des centres de jour pour les personnes itinérantes, comme je vous disais tantôt, là, qui a été très, très important. Les gens de Montréal ont fait preuve d'une très grande créativité, je peux vous le dire, dans un contexte, je dirais, d'intense pression comparativement à d'autres sections du Québec, sans souligner le travail qui était fait ailleurs. Mais ici, ça a été vraiment là, excessivement chaud, excessivement d'intensité, excessivement de nécessité d'augmenter de façon très significative les ressources, ce qui a été fait le plus rapidement possible. Puis un des enjeux majeurs qu'on a dans notre système de santé ou ailleurs dans la société québécoise, c'est la question des ressources humaines. On peut avoir des argents, on peut avoir des postes, mais des ressources humaines en quantité significative, importante, mobilisable, c'est un enjeu majeur qui était présent antérieurement, qui va l'être encore, malgré le fait qu'on va avoir plus de préposés aux bénéficiaires. Il y a des améliorations de ce côté-là, mais c'est un enjeu important, la question des ressources humaines. Je tiens à vous dire aussi que tout ça, ça se doit se vivre avec une très grande solidarité, une solidarité qui était présente au printemps dernier, mais qui va l'être encore plus, à mon avis, actuellement, notamment par les expériences qui ont été faites, le rôle de chacun qui doivent être ensemble dans la lutte à la pandémie. Ce que j'aimerais aussi peut-être vous dire, j'ai eu l'occasion tantôt de visiter, c'est intéressant, c'est pas dans mon secteur d'activité en santé publique, mais de visiter l'hôpital COVID à l'intérieur de l'hôpital Notre-Dame, c'est-à-dire de quelle façon, juste de l'autre côté de la rue, des médecins, des infirmières, des gens qui s'occupent, je vous dirais, des immobilisations, ont réalisé à l'intérieur de l'hôpital Notre-Dame une zone qui permet de rentrer et d'en sortir sans contaminer le reste de l'hôpital et d'avoir accès à toute une panoplie de soins, une zone verte, jaune et rouge, accès à des soins intensifs de premier ordre. Et je trouvais ça intéressant de voir que malgré les cas qu'ils ont eus à l'intérieur de cet hôpital-là, il n'y a pas eu de transmission nosocomiale de façon significative. Ils ont véritablement appliqué les mesures de prévention de façon... Donc, c'est comme un modèle, à mon avis. Tout n'est pas exportable partout, mais je trouvais ça très intéressant de faire cette visite-là. Et je remercie la PDG de m'avoir permis d'avoir l'occasion de rencontrer les équipes qui, actuellement, heureusement, ont moins de cas. Tant mieux. Mais faut pas dire que ça va pas revenir. Fait que je vous demande de faire attention. Vous savez, il faut apprendre à vivre avec ce virus-là, du moins pour un certain temps encore. On ne sait pas quand est-ce que va arriver des vaccins. Je pense qu'il faut falloir... on ne peut pas revenir à l'avant-COVID-19 maintenant. Je tiens à vous dire que je vais répéter encore beaucoup de choses. Et on va faire des recherches pour trouver des solutions. On va essayer de mieux se préparer. Mais c'est très important. Le message que je veux vous dire, c'est que le virus est au Québec. Il est là. Il est encore là pour rester. Je veux vous dire aussi qu'antérieurement, vous avez vu qu'ailleurs dans le monde, il y a déjà aussi des réaugmentations. Donc, ce n'est pas une vue de l'esprit de dire qu'on pourrait parler d'une deuxième vague. On va tout faire pour maintenir celle-ci au plus bas, pour ne pas commencer haut l'automne prochain. Puis, ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'on a fait beaucoup de connaissances. Et donc, les confinements, déconfinements, les réouvertures de différents milieux, la rentrée scolaire, tout ça, ça va être regardé de façon très, très attentive pour justement avoir comme première valeur, je vous dirais, la santé des enfants, mais aussi, et des écoles et puis des parents, mais aussi un équilibre par rapport aux effets pervers du déconfinement, parce que je trouve ça très, très important, particulièrement pour les personnes qui ne sont pas à haut risque. C'est important qu'on apprenne de l'épidémiologie qu'on a fait. Je vais terminer mon allocution. Je sais que je prends du temps, j'en profite d'être à Montréal puis d'avoir l'auditoire pour répéter des messages. Je radote, je le sais, mais je vais radoter longtemps. La chose la plus importante dans le COVID-19, c'est la question de respect des consignes, dont la première est la distanciation de 2 mètres. Pour moi, ça, c'est vraiment majeur. Être distancé à 2 mètres tout le temps, c'est pas toujours évident, c'est pas facile. C'est pas pour rien qu'à l'intérieur des maisons, on dit aux gens de se rassembler pas plus que 10 personnes, parce que c'est un contexte familial qui nous amène trop facilement à avoir de la potentielle transmission. L'autre élément, c'est le lavage des mains. Je tiens à vous dire que c'est important. J'ai remarqué que depuis qu'on a le port du masque qu'on a rendu obligatoire, qui est un très bon ajout supplémentaire, une diminution du nombre d'endroits où on peut se laver les mains, où le réflexe qu'on a de se laver les mains là, avant qu'on ait le masque a un petit peu diminué. En tout cas, c'est peut-être une impression, une perception, mais je veux vous le dire, on vous a montré la chose la plus importante en premier, la distanciation, le lavage des mains. Le couvre-visage, c'est un élément supplémentaire. Il faut le faire, il faut le porter, il faut bien le porter, et je pense que ça fait partie de notre... attaque commune. Si avec le couvre-visage, on sauve 10 % des personnes, ça sera 10 %. Si ça en est 20, ça sera 20. C'est sûr que ça ne sera pas 100 %, mais rien ne fonctionne tout seul. Il faut ajouter les éléments et surtout, c'est pas parce que vous portez un masque qu'il faut que vous mettiez à 1 mètre de l'autre personne ou à 1,5 mètre. C'est plus pour quand vous ne pouvez pas, quand vous allez voyager. J'insiste là-dessus, puis j'insiste à ce que vous évitiez les grands parties. Là, il va y avoir des zones contrôlées de rassemblement. Mais ce n'est pas dans un contexte familial où, là, on a tendance à oublier. Moi, le premier, si vous savez le nombre de fois où j'avais envie de faire un hug à mes enfants, c'est normal, c'est naturel, on est contre nature. Mais j'insiste là-dessus. Je sais qu'on va dire « iradote », mais je veux le répéter parce que c'est, pour moi, la pierre angulaire de ce que vous pouvez faire comme citoyen pour nous aider à éviter des cas. Et si jamais vous avez fait des choses pour lesquelles vous avez des inquiétudes, puis que vous êtes appelé par la santé publique, il n'y a personne qui va vous accuser. Collaborez avec eux, parce que plus on peut couper la chaîne de transmission rapidement, moins on a des risques que ça flambe dans la communauté. Puis il faut protéger nos... Faites-le pour vous, faites-le pour ceux que vous aimez, faites-le pour la santé de nos aînés. Merci beaucoup. Je cède la parole maintenant au docteur Drouin.
Madame Bélanger, docteur Arruda, merci d'être ici à la Direction régionale de la santé publique. Alors, l'étape bilan est vraiment un exercice essentiel lorsqu'on vit un moment comme on a vécu ce printemps, un moment où on regarde un petit peu en arrière tout le travail qui a été fait et où on se projette pour la prochaine phase. C'est aussi une étape, je dirais, là, où il y a son lot d'émotions, où on se questionne sur qu'est-ce qu'on aurait pu faire autrement, comment, y a-t-il des choses qu'on a, des angles morts qu'on aurait manqué. Et dans ce lot d'émotions-là aussi, je pense que c'est aussi beaucoup de fierté puis de reconnaissance pour le travail accompli par nos équipes. Aujourd'hui, on se prépare pour la deuxième phase. Une deuxième phase, une éventuelle vague à l'automne qu'on n'est pas capable de prédire, évidemment, si ça va être plusieurs petites éclosions, des moyennes vagues ou une grosse, là, plus en novembre. Mais clairement, on doit se préparer au pire. D'entrée de jeu, en termes de bilan, bien, on le sait, Montréal, le bilan pour Montréal est quand même lourd en nombre de cas, en nombre de décès. On est l'épicentre, évidemment, du Québec et du Canada. On peut qualifier un petit peu cette première vague-là en trois temps. On a évidemment eu les voyageurs, suivis évidemment de ces éclosions qui nous ont vraiment surpris en CHSLD et résidences de personnes âgées. Beaucoup d'infections chez les travailleurs de la santé et travailleurs essentiels qui se sont déplacés évidemment vers une transmission communautaire en mai dans certains quartiers beaucoup plus touchés, des quartiers chauds. Donc, globalement, c'est vraiment 76% de nos milieux aînés ont vécu une éclosion et 88% de nos décès se trouvaient évidemment dans ces milieux. 22% de tous nos cas étaient des travailleurs de la santé, donc c'est 6268 travailleurs de la santé à Montréal qui ont été infectés. Donc, c'est sûr que le gros de ce qu'on a vécu dans notre première vague se situe autour de ces éclosions. Le succès, parce que quand même, il y a des choses qu'on a fait et qu'on peut être fier, c'est évidemment à la fois le contrôle, la transmission communautaire qui s'est fait en début avec les voyageurs et celle lorsqu'on avait évidemment plusieurs zones d'éclosion et de transmission communautaire dans des quartiers chauds, beaucoup dans l'est et dans le nord de l'île de Montréal. Et ce succès-là ou cette capacité de contrôler la transmission, c'est vraiment des efforts et une synergie, je dirais, d'action dans la chaîne qu'on appelle de dépister, enquêter, isoler et évidemment…
Alors, ça se poursuit, cette conférence de presse, où on sent davantage la volonté d'établir un bilan et de faire la démonstration, Luc Lavoie, que toutes les parties vibrent maintenant à l'unisson pour le prochain défi.
Écoute, Jean-Luc, j'écoutais cette conférence de presse et j'avais envie de faire un Jean-Luc Mongrain de moi-même. Je suis un peu tanné de les entendre nous raconter tout le temps la même chose. Oui. Comprends-tu?
Oui.
Nous raconter la même chose. Nous, on a été pris par surprise par les CHSLD. Pardon? Comment avez-vous pu être pris par surprise? La pandémie avait commencé à faire son œuvre en Italie, en Iran, en Chine, en Corée, et elle visait qui? Les personnes âgées. Comment vous avez pu être surpris? Voyons donc, vous avez pris des gens dans des hôpitaux parce que vous vouliez libérer des lits, puis vous les avez envoyés dans des CHSLD, qui étaient en quelque sorte les envoyés à chambre à gaz, parce que la CHSLD n'avait pas l'équipement, le personnel n'était pas préparé, ne connaissait rien à ça, il n'y avait aucune sécurisation. On a été pris par surprise. Sais-tu quoi, Jean-Luc? J'ai hâte que l'enquête du coroner public commence. À un moment donné, là, on faut appeler les choses par leur nom. On restait calme pendant le gros de la pandémie, là. Mais parce qu'on se disait, gérer une crise, c'est pas facile, puis on peut pas comme ça être toujours en train
de... On bâtit l'avion en vol.
Toutes ces espèces de conneries-là qui ont été répétées à satiété, moi, j'en ai soupé de ça, OK? Pourquoi ils font une conférence de presse aujourd'hui? D'abord, le conseiller en communication qui a gagné sa vie à aider des gens à mieux communiquer, leur aurait dit, si t'as rien à annoncer, ferme ta gueule, parce que tu vas te retrouver encore dans les mêmes patates, puis dans les mêmes affaires, puis tu vas tourner dans ta chenoute, puis dans tout ce que tu
mais
veux.
Mais sais-tu, Luc, moi,
j'en ai plein jusque-là. Écoute, le Québec, là, ça a été...
C'est vendredi, t'as
oui,
un verre de vin qui t'attend,
puis tout. Je te le dis, je fais mon Jean-Luc Mongrain, là. À un moment donné, là, il faut reconnaître une chose. Montréal, comme centre urbain, a été un des 5 endroits les plus touchés de la planète Terre. C'est l'épicentre du Canada. Comment ça se fait? 88% des gens qui sont morts, paraît-il, a-t-elle dit, venaient de ces gens qui étaient plus âgés. Puis ils ne savaient pas. Ils n'étaient pas au courant. Quand ils ont décidé d'envoyer le monde dans des CHSLD qui n'étaient pas préparés, ils n'avaient pas lu les journaux, à tout le moins. C'est ce qui se passe en Italie, en Espagne, en Iran. Je comprends pas.
Je t'ai inoculé, ma foi.
J'arrête. Jean-Luc, je deviens calme.
OK, d'accord. Sais-tu, moi, ce que ça m'a fait penser, ça avait l'air de la finale d'une tournée des régions du Québec où il fallait venir panser des plaies et motiver les troupes, les remercier. C'est un exercice de relations publiques, à mon point de vue.
À l'interne, ça ne nous intéresse pas, leur blabla. Là.
Exactement.
Moi, tu comprends-tu que le fait que les PDG des CIUS se réunissent avec Mme Drouin, puis l'autre Mme Bélanger, puis Mme je ne sais pas trop quoi, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? À quoi ça sert, ça? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait pour qu'on ait un bilan aussi dramatique? Et là, tu comprends, je m'en prends même pas au gouvernement Legault ou à M. Legault lui-même. Il vient d'arriver, puis il y a une machine gouvernementale qui est complètement encrassée, puis il y a des gens, comprends-tu, qui ont les deux pieds dans la même bottine. Puis ils envoient nos gens, nos personnes âgées. Tu sais, ils nous lâchent ça comme ça. Tu sais, on reconnaît qu'on l'a échappé. Là, ça a été pas mal dur dans les CHSLD. T'es échappé? T'es pas échappé, ils sont morts. Voyons donc.
On a une victoire, puis on a une défaite. Tu te souviens de ça?
Moi, j'en reviens pas de cette affaire-là. À un moment donné, là, bon, on suit les consignes. Je suis les consignes, tu suis les consignes.
Oui.
On encourage nos auditeurs à le faire, et je le dis très, très, très sincèrement. Maintenant, un jour, il va falloir que vous arrêtiez de me faire des conférences de presse. Il m'a dit, on a échappé un petit bout. Tu n'as échappé un petit bout? Quasiment une génération de Québécois qui est emmenée. Voyons donc.
Mais
me recalme.
J'ai senti énormément de politique, moi, là-dedans. C'est-à-dire, okay. Tu te souviendras de Drouin et de Arruda qui, à un moment donné, se sont
crêpés le chignon un petit peu.
Oui, ils l'ont fait en coulisses peut-être davantage qu'en public, mais on sentait qu'il y avait deux réalités dans la gestion de la crise, parce qu'il y avait deux Québec, il y a Montréal, il y avait les autres régions, bien sûr. Et là, j'ai l'impression que c'est comme, je sais pas moi, le calumet de paix en vue d'une prochaine affaire. Puis écoute, il faut dire à notre personnel puis à notre monde qu'ils ont bien travaillé, puis etc., etc., etc. Je comprends, ils se sont brûlés. Il en manquait 10 000, il a fallu qu'on en forme sur le tas et rapidement pour venir soutenir la situation. J'ai hâte de voir si et comment se fera une deuxième vague. Merci.
J'ai hâte de voir comment ils ont pris une décision aussi stupide.
Merci beaucoup. On va avoir certainement une enquête éventuellement.
Bon match de hockey.
Hey, toi aussi, bon match de hockey. Bonne fin de semaine.
Salut.
Au revoir. Au revoir tout le monde. Merci à Larry. Merci beaucoup, Valérie. Merci, Maryse à la maison. Et on se retrouve, nous, la semaine prochaine. Au revoir. Bonne fin de semaine. Bon match.